Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre vadrouille du dimanche. Allons voir ensemble comment va la vie ailleurs. Avec d'abord le mot de la semaine, Brexit. Le rejet de l'acte de divorce par les députés britanniques provoque de l'inquiétude chez certains qui font des stocks, une détermination décuplée chez les Brexiteurs les plus durs et des questions sans réponse à Bruxelles où l'on échafaude les scénarios. On sera à Londres et à Bruxelles dans quelques secondes. Je vous convie à deux jolies balades dans les campagnes italiennes et japonaises, dans des fermes, des villages qui ont trouvé les moyens de faire revenir les citadins à eux. Ce sera une séquence basse-cour et petits oiseaux. On va évoquer aussi deux pays africains, le Soudan, parce que la population se rebelle. Au début, c'était pour le prix du pain. Désormais, les Soudanais veulent le départ du président dictateur. Et puis, on ira au Tchad pour rencontrer des femmes qui luttent contre les mariages forcés. Attention, ça n'arrive pas souvent. Nicolas Caro crie au génie. Son auteur de la semaine est norvégien. Quant à Joseph, dans ses voyages, il a repéré quelques bons trucs anti-vol. Les carnets sont ouverts. Direction une île qui prend le large, la Grande-Bretagne. Et mardi soir, à Westminster, ce qui devait arriver arriva.
Les oui à droite, 202. Les non, de l'ordre. Les oui à droite, 202. Les non à gauche, 432.
Le projet négocié par Theresa May avec l'Union européenne a été massivement rejeté par la Chambre des communes. Décidément, la Grande-Bretagne enchaîne les votes historiques sur cette question du Brexit. La première ministre britannique doit proposer au Parlement un plan B demain, lundi, sur lequel un nouveau vote est prévu le 29 janvier. Mais en cette fin de semaine, c'est le sentiment d'incertitude qui a pris le dessus. Personne ne sait si la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne le 29 mars ou plus tard, ni dans quelles conditions. On en parle avec trois reporters d'Europe 1 qui sont à Londres et à Bruxelles. Et d'abord, cette incertitude se mue en inquiétude pour beaucoup outre-Manche. Anaïs Cordoba, bonjour.
Bonjour Sophie.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. L'un des signes de cette inquiétude que j'évoquais à l'instant, c'est ce réflexe qu'ont certains de faire des stocks.
Oui, c'est la crainte d'une sortie de l'Union européenne sans accord qui pousse des grandes entreprises, mais aussi des particuliers à stocker. Mmh. Alors, depuis quelques mois, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des groupes de stockeurs qui échangent bons plans et conseils. Et il ne s'agit pas d'illuminer, hein. Ces groupes réunissent des milliers de personnes. Selon une étude parue cette semaine, un Britannique sur six a commencé à stocker des vivres ou il réfléchit sérieusement. Une tendance dont s'est très vite rendu compte James Blake, qui tient un site de vente en ligne d'aliments lyophilisés. Il a créé en décembre une Brexit Box, sorte de kit de survie alimentaire, et elle se vend comme des petits pains.
La boîte contient 60 repas, 48 portions de viande, et il y a aussi un filtre à eau. La demande nous a surpris, mais je pense que c'est parce que les gens ont peur. Peur de l'inconnu, parce que le gouvernement lui-même ignore ce qui va se passer. La Brexit Box donne le sentiment aux gens de reprendre un peu le contrôle. Ils se disent, on doit avoir confiance dans nos hommes politiques pour régler le problème. Mais s'ils n'y arrivent pas, je garde le contrôle en me préparant.
Anaïs, est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu tous ces gens qui font des stocks? Il y a vraiment des risques de pénurie?
C'est possible, hein, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne sans accord. Les contrôles douaniers retarderaient l'approvisionnement des marchandises, dont certaines sont très sensibles, comme les médicaments. D'ailleurs, le service de santé britannique a mis en place son propre plan de stockage de médicaments. Le ministre de la Santé s'en est vanté en se proclamant plus gros acheteur de frigo au monde. Quant aux patrons britanniques, ils sont de plus en plus inquiets, comme l'a constaté Peter Ward, qui vend aux entreprises de l'espace de stockage.
Il y a clairement une augmentation de la demande d'espace de stockage depuis 3 ou 4 mois. Ça a augmenté au fur et à mesure que la situation politique évoluait, montrant un vrai risque de sortie de l'Union européenne sans accord le jour du Brexit. Nous avons des demandes d'entreprises qui proviennent de tout le pays, du sud jusqu'en Écosse, et ça concerne toutes sortes de secteurs et de marchandises. Des produits finis, de la nourriture séchée, des composants pour l'énergie ou la production industrielle. L'espace de stockage disponible se réduit de plus en plus.
C'est bien simple. En Grande-Bretagne, il n'y a plus de place pour stocker des produits frais ou surgelés. Tout est déjà réservé pour les 6 prochains mois. Et pour couronner le tout, ces entreprises qui fournissent de l'espace de stockage ont du mal à suivre à cause d'un autre problème, le manque de main-d'œuvre, car elles emploient beaucoup d'Européens des pays de l'Est qui ont été très nombreux à partir à cause du Brexit.
Voilà, merci. Certains évoquent cette inquiétude qui pousse à stocker avec un humour tout british. Cette semaine, l'ancien ministre Denis McShane disait sur une télé française son inquiétude face au risque de pénurie de papier toilette, affirmant même avoir commencé à découper les journaux pour, à sa manière, stocker lui aussi. Merci beaucoup Anaïs pour cet éclairage.
Merci.
On l'a compris, certains craignent une grosse pagaille, voire une période de chaos. Et ceux qui souhaitent le Brexit, coûte que coûte, les Brexiteurs les plus durs, qu'en pensent-ils ? Comment voient-ils l'avenir de la Grande-Bretagne ? L'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs, est allé à leur rencontre en fin de semaine dans un meeting organisé par le mouvement « Leave means leave ». Partir veut dire partir. Voici son reportage.
Leur campagne n'a jamais cessé. Plus de 2 ans après le référendum, les leaders historiques du camp pro-Brexit font toujours sale comble. Ce soir-là, face au Parlement de Westminster, ils sonnent la mobilisation pour que la sortie de l'Union ne soit surtout pas repoussée. C'est toujours très clair dans le pays, explique Martin. La majorité des gens veulent le Brexit, et s'il le faut, sans accord.
Le gouvernement a posé la question et le peuple a répondu. Maintenant, les députés doivent appliquer le résultat du vote. Et s'ils ne le font pas, ils en subiront les conséquences. Les gens se sentiraient trahis et abandonnés.
Et peu importe les implications qu'on prédit désastreuses en cas de no deal, ils n'y croient pas beaucoup. Pas plus que ce jeune chef d'entreprise.
On nous raconte qu'on ne va plus pouvoir prendre l'avion, qu'il n'y aura plus rien à manger, plus de médicaments. Les gens vont mourir, le monde va s'effondrer. C'est n'importe quoi.
Ne croyez pas au scénario de la peur. À la tribune, c'est un ancien ministre conservateur qui le répète. Ian Duncan Smith crie à la machination.
C'est un énorme complot monté par l'establishment pour nous faire croire qu'on est une petite nation misérable, incapable de se débrouiller seule et qui doit craindre pour l'avenir. Parce que la Grande-Bretagne ne serait qu'une petite île sans intérêt au nord du grand continent. Que de foutaise! Ils veulent éradiquer les États-nations. Mais on ne peut pas aimer son pays et se laisser gouverner par quelqu'un d'autre. C'est notre problème depuis 40 ans.
Et dans la salle, c'est un sentiment généralisé, l'impression d'être gouverné de l'extérieur par des bureaucrates que personne n'a jamais élus. Il est temps de reprendre notre liberté, estiment Sally et Lorraine.
On ne veut plus être gouverné par l'Allemagne. Parce qu'au final, c'est bien l'Allemagne qui dirige l'Union européenne. Le plus important, c'est de retrouver notre souveraineté, de gérer notre pays comme on veut, de contrôler nos frontières. Et toutes ces dépenses excessives à Bruxelles ne servent pas nos intérêts.
Ils n'ont pas à nous dire ce qu'on doit faire. Je n'ai pas voté pour ces gens-là, moi. La Cour de justice européenne, par exemple. Quelqu'un est condamné, il va faire appel là-bas et il est blanchi. Juste parce que l'Union européenne l'a décidé ? Non, je ne suis pas d'accord.
Le problème, explique Henry, c'est que l'Union européenne est devenue bien trop politique. Le Royaume-Uni a sa propre démocratie historique et s'en porterait bien mieux tout seul.
On a bien plus confiance en nos institutions qu'en celles de l'Union européenne. Je comprends que des démocraties plus récentes veuillent faire partie d'une union à la fois politique et économique. Si j'étais allemand, italien ou grec, je voudrais faire partie de l'Union européenne parce que c'est une garantie pour la démocratie. Mais pour le Royaume-Uni, c'est différent. On n'en a pas besoin. Notre démocratie fonctionne depuis beaucoup plus longtemps.
Au micro, le leader Nigel Farage se déchaîne. Pour lui, le Brexit, c'est l'indépendance, une question de fierté nationale. Mais désormais, ses ennemis ne sont plus à Bruxelles. Ils sont ici, à Westminster, et le combat est loin d'être terminé. Londres, Sébastien Krebs, Europe 1.
Et le combat continue effectivement. En face des Brexiteurs purs et durs, d'autres espèrent un retour en arrière. Que va-t-il se passer maintenant avec l'Union européenne ? Là aussi, les plans sont chamboulés et c'est l'incertitude. Et celui qui a peut-être le mieux résumé la situation cette semaine, c'est Emmanuel Macron, lorsque le président français s'adressait aux 600 maires, c'était mardi.
Je vais vous dire comment je vois les choses. Première option, ils vont vers le no deal. Donc ils disent, il n'y a pas d'accord. Ça fait peur à tout le monde. Les premiers perdants de ça, ce sont les Britanniques. Et il faudra de toute façon qu'on négocie avec eux une période transitoire, parce que les Britanniques, ils ne peuvent pas se permettre de plus avoir un avion qui décolle ou qui atterrit chez eux. Et leur supermarché, à 70%, ils sont approvisionnés parce qu'il vient l'Europe continentale. Deuxième option, ils nous disent on va essayer d'améliorer ce qu'on peut obtenir des Européens et on va revenir faire le vote. Là, on regardera. Peut-être qu'on peut améliorer un ou deux points. Je ne crois pas tellement, parce qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire dans l'accord. Et on ne va pas, pour essayer de régler un problème de politique intérieure britannique, ne pas défendre les intérêts des Européens. Puis il y a une troisième option qui est de nous dire, et à mon avis, ils vont commencer par la deuxième, puis ça finira à la troisième, ils vont demander d'avoir un plus grand délai pour renégocier quelque chose. Et donc, ils vont prendre plus de temps, peut-être qu'ils vont enjamber les élections européennes pour essayer de trouver quelque chose d'autre.
Option 1, 2 ou 3, qu'en dit-on à Bruxelles ? Isabelle Horry, bonjour.
Bonjour Sophie. Alors je dirais option 3, mais qui ne permettra pas forcément d'éviter l'option 1.
Ça mérite quelques explications.
Oui, alors autrement dit, les Européens sont effectivement prêts à un report du Brexit, mais pour autant, ils ne sont pas certains que ça suffira à éviter le scénario du pire. Ici, il n'y a évidemment aucune envie de foncer droit dans le mur, mais il y a une grande inquiétude que ça arrive malgré tout, faute d'un consensus au Royaume-Uni. Ça s'est bien senti lors du débat qui a eu lieu au Parlement européen cette semaine, après le vote aux communes. Écoutez cet extrait de la déclaration de Frans Timmermans, c'est le numéro 2 de la Commission européenne.
Personne ne doit se faire d'illusions. Le Brexit fait mal. Il fait mal au Royaume-Uni, il fait mal à l'Union européenne. Mais comme politiciens, nous avons le devoir de limiter les dégâts à l'absolu minimum possible. Pour citer l'écrivain Lewis, nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le début, mais nous pouvons partir de là où nous sommes et changer la fin.
Voilà, les Européens sont donc prêts à donner du temps pour trouver une meilleure fin. Mais combien de temps, Isabelle ?
C'est la grande question, évidemment. Alors, vous savez que le Brexit doit, en théorie, être effectif le 29 mars à minuit. Dans 10 semaines, il y a grosso modo deux options. Alors, la première, c'est un report jusqu'au 30 juin. Et la deuxième, c'est un report au-delà de ces 3 mois.
Et pourquoi cette date du 30 juin ?
Parce que c'est le dernier jour du mandat du Parlement européen actuel. Alors, reporter de fin mars à fin juin, c'est assez facile. Ça ne change pas grand-chose pour les Européens. Mais si on dépasse le 30 juin, là, ça se corse sérieusement. Ça veut dire qu'il faut des eurodéputés britanniques dans le Parlement qui aura été élu fin mai.
Ça fait des élus d'un pays qui quitte l'Union. C'est une situation surréaliste.
Et oui, mais le Parlement européen doit représenter tous les États de l'Union, sinon il est illégal. Alors ces dernières semaines, les juristes ont planché ici à Bruxelles et ils sont formels, il n'y a pas d'autre choix. Un report au-delà du 30 juin, ça implique l'élection de 73 Britanniques à Strasbourg. Ça veut dire un gaspillage d'argent, d'énergie, ça veut dire aussi sans doute une modification des équilibres politiques de la future Assemblée. Donc ça ne réjouit personne ici à Bruxelles, mais comme dit Frans Timmermans, il faut être prêt à faire des efforts pour limiter les dégâts.
Bon, mais Isabelle, reporter le Brexit, c'est un peu reculer pour mieux sauter, ça ne va pas résoudre le problème de fond.
Non, mais ça donne du temps pour essayer de forger un nouveau consensus en Grande-Bretagne, pour organiser de nouvelles élections, un nouveau référendum par exemple. Ou au pire, pour mieux se préparer à un hard Brexit. Ce qu'il faut savoir, c'est que formellement, ce sont les Britanniques qui doivent demander un délai. Pour le moment, ils n'ont pas fait. Mais à Bruxelles, on est vraiment persuadés que ça va finir par arriver.
Quel feuilleton. On continuera donc à en suivre les épisodes, notamment avec vous, Isabelle Horry, depuis Bruxelles. Merci beaucoup.
Merci Sophie, à bientôt.
Et un merci collectif d'ailleurs à l'équipe Brexit de la semaine sur Europe 1. Isabelle et puis Sébastien Krebs et Anaïs Cordoba à Londres.
Europe 1.
Dans un instant, gros plan sur le Soudan, un pays en crise et qui se rebelle contre le régime et son président qui règne depuis 3 décennies.
Europe 1.
Notes from around the world.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Sophie Larmoyer et ensemble, on prend la direction du continent africain.
Coup de projecteur sur ce pays d'Afrique qui vit au rythme des manifs depuis un mois. Je veux parler du Soudan, un mouvement populaire qui a commencé après l'annonce du triplement du prix du pain le 19 décembre dernier. C'était en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans ce pays qui vit une crise économique de pire en pire ces dernières années. Les manifs ont tourné aux émeutes du pain et aujourd'hui elles prennent la tournure d'un soulèvement clairement politique. Avec moi en studio pour en parler, Rachid Saïd Yagoub, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste franco-soudanais et vous vivez en France depuis des années, mais vous suivez évidemment de très près l'évolution.
Surtout ces dernières semaines.
Exactement, l'évolution du Soudan. Vous avez de nombreux contacts. Expliquez-nous d'abord en quelques mots cette asphyxie économique que vit la population ces derniers mois, mais finalement ces dernières années.
Oui, ces asphyxies ou cette crise économique qui dure depuis quelques années est liée surtout à la séparation entre le Soudan et le Nord-Soudan, parce que le Soudan dépendait à 70% pour ses revenus sur le pétrole.
On peut rappeler que le Sud-Soudan a pris son indépendance en 2011.
Mm-hmm. Et depuis, le Soudan est privé de ses ressources mm-hmm. pétrolières. Et en plus, le régime en place, pour sa sécurité, il consacre à peu près 65% de son budget à l'armée et aux services de sécurité.
Donc il ne reste plus rien pour l'économie.
Il ne reste plus rien. Il y a 3% pour l'éducation, 5% pour la santé et à peu près 10% pour les services sociaux.
La livre soudanaise a perdu 75% de sa valeur en un an à peu près.
Et depuis l'arrivée de Bachir, le livre soudanais a perdu 3000% de sa valeur en 30 ans.
Vous parlez d'Omar el-Béchir, c'est le président du Soudan,
qui a pris le pouvoir en 89 par un coup d'état militaire. Voilà. Mais depuis le début de l'année, il y avait une chute brutale dans le pouvoir d'achat des deux Soudanais. Et surtout, il y avait des pénuries à répétition de pain, d'essence, mais aussi des médicaments, et récemment de cash. Parce que le régime, pour essayer de garder l'échange de livres à un taux raisonnable, il a restreint le
200
retrait.
Livres maximum par jour et par personne.
Voilà, 200 livres maximum par jour et par personne, ou 2000 livres par mois par personne.
C'est ce qui explique que malgré la répression, parce qu'il y a une véritable répression, les Soudanais continuent à descendre dans la rue jour après jour. La semaine qui vient de se passer a été particulièrement dense.
C'est vrai, mais le soulèvement populaire a changé de nature depuis 10 jours, 15 jours. Ce n'est plus un soulèvement pour le pain, pour l'essence,
plus
pour les médicaments.
Ouais.
Non. Maintenant, c'est un soulèvement pour demander le départ de régime. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui participe. La mobilisation est beaucoup plus forte. Toutes les villes soudanaises, toutes les grandes villes soudanaises de plus de 100 000 habitants participent à ces manifestations-là.
Rachid Saïd Yacoub, la répression au Soudan est absolument terrible et quotidienne. Elle a déjà fait 40 morts au moins dans les manifestations. Ça, c'est le décompte des organisations de défense des droits de l'homme.
Ouais.
Absolument. Je vous propose justement d'écouter un chercheur d'Amnesty International qui est basé au Kenya. Il s'appelle Ahmed El Zobié. Il suit quotidiennement la situation là-bas.
Ils ne peuvent pas s'en sortir au quotidien. Et s'ils essayent d'exprimer leur point de vue, ils sont harcelés, oppressés, arrêtés, battus, torturés.
Torturés ?
Oui, oui, la torture est pratiquée dans les centres de détention. Nous l'avons déjà pointé dans nos précédents rapports. Mais ça arrive encore en ce moment, alors que nous parlons.
Savez-vous combien de personnes sont en prison en ce moment ?
On en enregistrait plus de 1000. Mais chaque jour, on nous rapporte entre 20 et 40 nouveaux noms de personnes détenues dans le pays. On reçoit beaucoup de vidéos, des vidéos des manifestations. Les forces de sécurité attaquent les manifestants, elles les arrêtent, elles les battent dans la rue. Et ensuite, ils sont emmenés dans différents centres de détention, à Khartoum ou ailleurs. Et vous pouvez imaginer ce qui leur arrive à l'intérieur.
Voilà, des soupçons très, très étayés par Amnesty International de torture. Et Ahmed El Zobié me parlait aussi d'une milice secrète affiliée au régime, présentée comme la plus violente qui poursuit les gens dans la rue.
D'abord, il faut rappeler à vos auditeurs que ce régime-là, la répression, c'est sa façon d'être. Et depuis le début de son accession au pouvoir, on ne faut pas oublier qu'il y avait 1 million de morts dans la guerre contre le Soudan. Mm-hmm. Le régime est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et des génocides au Darfour. Il y avait 400 000 morts selon les estimations des Nations Unies.
Omar
el-Béchir
est
accusé
par
la Cour pénale internationale. Mm-hmm. Il est poursuivi par la Cour pénale internationale depuis 2008. La répression, c'est un acte journalier de ce régime-là. Mais aujourd'hui, face à cette mobilisation, le régime n'a pas d'autre arme, n'a pas d'autre solution, n'a pas d'autre alternative que d'utiliser la répression. Et c'est la répression tout azimut aujourd'hui.
Ces derniers temps, ça s'est accentué, les arrestations se sont multipliées. Est-ce que ça veut dire que le régime se sent menacé? Et ça, c'est peut-être une donne qui est nouvelle.
Oui, je pense que le régime vraiment sent qu'elle est sur la menace. Il y a des manifestations pratiquement tous les jours depuis 4 semaines. Et ça, c'est nouveau parce que les dernières manifs qu'on a connues au Soudan, c'était en 2013. Et ça a duré 4-5 jours avec 200 morts quand même. Mais ça a duré pas plus de 400 jours. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 semaines que les Soudanais manifestent tous les jours. La vie tourne au ralenti, la vie économique, la vie sociale dans le pays tourne au ralenti. Et c'est pour ça que le régime fait ce recours-là aux milices, qui est aussi une habitude de ce régime, parce que le régime a utilisé les milices de Popular Defense Force dans la guerre au Soud, il a utilisé les milices des Janjaouides dans la guerre au Darfour, et aujourd'hui il utilise les mêmes milices pour réprimer la population dans les villes, parce que la force de police ne peut pas faire face toute seule à ce type de protestation. C'est pour ça cet appel aux milices qui sont assez brutales dans la répression.
Vous avez l'air de penser que cette fois-ci, le régime est réellement plus menacé qu'il ne l'a jamais été.
Oui, je pense, parce que le président Bachir, déjà devant l'armée, avait laissé entendre qu'il est resté au pouvoir beaucoup plus de temps qu'il fallait. Il a aussi dit qu'il était prêt à passer le pouvoir à l'armée, et ça c'est la première fois. Et en plus, il a retardé l'échéance d'amendement constitutionnel qui devait permettre au mois de janvier au président Bachir de briguer un septième mandat après 30 ans de pouvoir.
Pourquoi est-il plus fragile aujourd'hui qu'hier ? Il tient depuis tellement longtemps avec cet appareil répressif.
Plusieurs raisons. D'abord, la situation économique qu'on a évoquée tout à l'heure. Deuxième chose, les dissensions à l'intérieur du régime. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur du régime qui disent « aujourd'hui, ça suffit, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir ». Troisième chose, le général al-Bashir a perdu beaucoup de ses alliés extérieurs parce qu'il avait l'art de jouer sur les contradictions, une fois avec l'Iran, une fois avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, une fois avec la Russie, une fois avec l'Europe et les États-Unis. Mais aujourd'hui, tout le monde semble découvrir que Bachir joue le temps. Aujourd'hui, il n'a plus d'armes dans ses mains.
Voilà, petite explication du diplomate que vous êtes à l'origine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Rachid Saïd Yagoub. On continuera à suivre la situation du Soudan. Merci.
Merci pour vous.
Europe 1.
Changement radical de décor, on file au nord de l'Europe pour se plonger dans un bouquin.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Un livre dans le monde, c'est le rendez-vous littéraire des carnets avec vous Sophie Larmoyer et Nicolas Carreau.
Nicolas Carreau, c'est son boulot, lire des romans, mais surtout, il sait nous les conseiller avec pertinence. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Cette semaine, vous nous emmenez en Norvège avec un auteur contemporain culte.
Karl Ove Knausgård, c'est un phénomène incroyable de la littérature contemporaine, on l'appelle le Proust norvégien. Il est hyper célèbre dans de nombreux pays, mais bizarrement, en France, eh ben pas trop. Il s'en sort bien, hein, il fait des scores corrects, mais mystère de l'édition, il ne bénéficie pas du même engouement que dans les autres pays, alors que nous sommes face à un authentique génie.
Carrément.
Carrément.
On en avait déjà parlé dans les carnets, non ?
Absolument. En 2014, pour Un homme amoureux, le deuxième tome de son autobiographie monstre, Karl Ove Knausgård a entrepris en fait de raconter sa vie, toute sa vie, rien que sa vie, dans les moindres détails, sans se donner le beau rôle, ni le mauvais d'ailleurs. Il raconte absolument tout, sans effet de style particulier, sans métaphore alambiquée ou poétique. C'est une sorte de réalisme brut. Ça donne une œuvre littéraire très étrange et finalement sublime. Béatrice Duval, directrice générale des éditions de Noël.
Moi, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est qu'il ne se met pas en avant. Une façon assez impudique de se montrer tel qu'il est, sans vouloir vendre plus que ce qu'il est simplement. Et on a rarement cette espèce de simplicité totalement authentique. Et tout ça sonne très très juste. Je pense que c'est la démarche qui fonctionne. C'est un petit côté hypnotique, parce que c'est vrai que les mots sont simples, les phrases sont simples, il n'y a pas vraiment de style. Je pense qu'il place le lecteur un peu dans une position de voyeur. Et ça fonctionne d'une façon assez hypnotique, parce que souvent on est complètement entraîné dans ces aventures dans lesquelles on se reconnaît quand même sur pas mal de points. Et cette façon de s'offrir finalement à son lecteur et les correspondances qui existent entre ce qu'il écrit et ce que nous on a pu vivre.
Bon alors, qu'est-ce qu'il raconte dans ce nouveau livre ? C'est toujours sa vie à lui ?
Ah oui, absolument. Ouais. Comme il pleut sur la ville, c'est le cinquième tome, mais il ne respecte jamais l'ordre chronologique. Là, on se retrouve à 20, il a 20 ans, dans un road trip en autostop dans les années 80. Il est à Vienne avec un copain et puis il essaye de rentrer chez lui en Norvège donc. Mais il est fauché, vraiment plus un rond. Donc pas facile, mais il se débrouille, on est dans sa tête, on le suit. Il n'y a pas de stress, hein, même dans les situations compliquées. À la dernière étape de son voyage, il doit prendre un ferry pour traverser un bras de mer et gagner la Norvège. Il est au Danemark.
Ça n'a pas l'air passionnant votre truc.
Mais c'est ça ce qui est génial chez Knausgård, c'est que c'est des trucs hyper simples qu'on a tous vécu ou à peu près, ou qu'on connaît. Mais je ne sais pas comment vous dire, il en dit tellement, il y a tellement de détails, sans afféterie, sans... On est dans sa tête et on vit son aventure qui paraît extraordinaire alors qu'elle est plus ou moins banale. Et là, c'est la dernière ligne droite, mais donc il n'a pas d'argent pour payer le bateau. Et s'il ne réussit pas à prendre ce ferry, bah, il doit faire un grand tour de plusieurs jours pour passer par la terre. Mais il ne s'inquiète pas, il écrit ceci. Désespéré, je me dis pourtant que je finirai par m'en sortir. On n'avait encore jamais vu un jeune Norvégien mourir de faim pendant ses vacances ou rester au Danemark parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Et ça, par exemple, vous voyez, quand on rentre de soirée, ou voilà, puis il n'y a plus de taxi, plus de bus, rien du tout, on se dit, mais je ne rentrerai jamais chez moi. Mais en fait, on sait qu'on rentrera chez soi. C'est ça,
le plus étonnant, c'est que ça fasse un roman, quoi.
Voilà. Mais alors lui, en plus, c'est la période de sa jeunesse où il a l'invincibilité des jeunes, justement, il se croit invincible. Et il doit absolument rentrer chez lui, cela dit, parce qu'il va faire sa rentrée à Bergen, dans la prestigieuse Académie d'écriture, une école d'écrivains, en fait. Mais ça ne se passe pas tellement comme prévu.
C'est la naissance de son talent d'écrivain. Donc, il participe à des ateliers d'écriture où, en fait, chacun doit critiquer les autres. Il est critiqué assez violemment. Il pense qu'il n'a absolument aucun talent et ses collègues ne se gênent pas pour le lui dire. Et donc, il doute énormément. Et puis, finalement, il finira par trouver sa voie. Donc, ce que j'ai aimé dans celui-ci, au-delà des années étudiantes de Knausgård, c'est aussi ses échecs en tant qu'écrivain, le manque de reconnaissance de ses copains et la façon dont il s'est obstiné quand même jusqu'à trouver exactement sa façon d'écrire à lui, qui lui appartient qu'à lui. Et il sonne juste, parce qu'il y a pas mal d'autres écrivains qui font part de leurs doutes, mais souvent ça sonne un peu comme des sortes de caliméros, quoi. Ils se mettent un peu en scène en se montrant et on a l'impression qu'ils essaient de gagner la pitié du lecteur ou l'empathie du lecteur. Là, en fait, il s'en fiche pas mal, je crois. Il n'a pas du tout envie de faire pitié à qui que ce soit ou de l'empathie de qui que ce soit. Il s'en fiche, il est juste comme ça. Je pense que cette simplicité, cette authenticité, c'est assez rare finalement.
J'imagine, Nicolas, qu'on suit aussi sa vie d'étudiant hors de l'école.
Bien entendu, c'est Knausgård, hein, rien ne vous sera épargné, vous saurez tout de lui, l'alcool, les filles, les doutes, les petites hontes, les petites victoires, le rock aussi, bien sûr. 835 pages qui se lisent d'un trait, vraiment, tellement la lecture est addictive. Je vous disais que c'était un phénomène d'édition en Norvège, la moitié du pays a lu ses livres. Oui. Ils sont que 5 millions, vous me direz, mais quand même, résultat, tout le monde le connaît intimement. Vous allez me dire, on s'en fiche de sa vie, hein, vous me l'avez dit. Oui, mais évidemment, il la raconte d'une telle manière que son récit devient universel. Et au fond, c'est ça la littérature. Non ?
Et en plus, si je puis me permettre, il a une belle gueule.
En plus.
Sur la pochette du livre. Comme il pleut sur la ville, donc, publié chez De Noël. Traduction
de Marie-Pierre Fiquet.
Merci beaucoup, Nicolas.
Sophie.
Europe 1.
Allez, on va prendre l'air, je vous emmène à la campagne, dans des fermes italiennes, des petits villages japonais, des endroits qui survivent à l'exode rural et réussissent même à faire revenir du monde. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h avec vous, Sophie Larmoyer. Et c'est dans deux pays que vous nous proposez d'aller maintenant, dans des villages qui s'activent pour se repeupler.
Les campagnes qui se vident, souvent faute de services publics et d'emplois, c'est un phénomène très largement partagé dans le monde. Depuis quelques années d'ailleurs, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Dans les carnets, on vous propose deux jolies balades dans des campagnes italiennes et japonaises qui luttent avec succès contre la désertification. L'Italie d'abord, où les agriculteurs ont développé le concept de l'agritourisme. Il s'agit de passer un week-end ou des vacances à la ferme. L'idée, c'est d'accueillir des touristes, italiens ou étrangers, dans l'exploitation agricole pour découvrir le travail de la terre et la saveur des produits du terroir. Une immersion à la campagne qui rencontre de plus en plus de succès. Reportage dans un agritourisme du Latium, la région de Rome, avec notre correspondante Blandine Hugonnet.
À une dizaine de kilomètres de la capitale italienne, dans une cuisine décorée de vieilles assiettes, Oksana est en train de faire tourner sa cuillère en bois dans une très grande casserole.
Je suis en train de préparer le brocoli romain. D'abord, on le cuit à l'eau, ensuite à la poêle avec un peu d'huile et d'ail. Les brocolis proviennent de nos terres, l'ail aussi, et l'huile, on la fait ici. En fait, on fait tout le repas avec les légumes produits ici.
Menu de saison et local pour 80 personnes ce midi, mais c'est la seule fois de la semaine que cette ouvrière agricole cuisine, car ici nous ne sommes pas au restaurant, mais dans un agritourisme en plein milieu des champs et des oliviers. Le repas à 25 euros permet de faire goûter et promouvoir les produits bio de cette ferme. Une salle de restaurant, mais aussi trois chambres pour les clients à l'étage, une épicerie et puis une ferme pédagogique pour faire découvrir le travail de l'agriculteur aux petits Italiens.
En ce moment, on fait les récoltes d'olives à la main avec eux. Ensuite, on leur montre comment notre moulin presse les olives et ils voient comment on fait de l'huile. On leur fait aussi visiter notre petit poulailler et s'il y a des œufs, ils peuvent les récupérer et ils comprennent alors d'où proviennent les œufs.
C'est Paolo, bonnet en laine et longue barbe, qui a ouvert cet agritourisme il y a 40 ans, alors qu'un tiers des villages italiens sont aujourd'hui abandonnés, comme de nombreux agriculteurs. Il a choisi ce modèle d'activité pour attirer à nouveau les citadins à la campagne, mais aussi pour arrondir ses fins de mois quand la saison a été difficile.
Ces activités supplémentaires comptent vraiment.
Non seulement pour créer du lien avec les gens, parce qu'ici à la campagne, on peut être totalement isolé, mais aussi par exemple, si on a une récolte de légumes qui est foutue, ça nous aide à assurer nos objectifs financiers et donc nos salaires. L'agritourisme, ça nous permet de maintenir notre production agricole.
Certains proposent des balades à cheval ou à vélo, des dégustations de leur vin, mais la règle en Italie, c'est que ces activités doivent rester complémentaires. L'agritourisme est avant tout un lieu de production ou d'élevage.
Si on se met à faire restaurant tous les jours, au final, ça devient notre activité principale. Mais nous, on n'est pas un gîte rural. Notre activité principale, c'est l'exploitation agricole. Dans la loi sur l'agritourisme, il y a une règle. Les recettes qu'on tire des activités touristiques ne doivent pas dépasser les 50%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant d'être agriculteur. Il faut l'être vraiment pour avoir l'appellation agritourisme.
Chicorée, radis endives, scarole à cuire, la batavia. Et là, c'est les feuilles du fenouil qu'on va donner aux cochons.
Ouvrier agricole depuis 15 ans ici, Remo nous fait parcourir quelques mètres des 400 hectares de culture qu'il aime faire découvrir aux touristes.
Dans l'agriculture, on a besoin de ce rapport humain. Rien à voir avec un sachet de salade qu'on achète déjà tout près. Les gens ont envie de voir et de comprendre. On ne veut pas faire que du productif, on est aussi dans l'interactif.
L'an dernier, 12 millions de clients ont choisi de séjourner dans un agritourisme italien, une réponse à leur désir grandissant de nature, comme pour Laura et Alberto qui sont en train de nourrir les cochons.
Pendant le week-end, on a envie d'une pause. Et on vient ici pour fuir le mode de vie frénétique qu'on a en ville.
Et c'est un retour à une dimension plus naturelle, où on sait d'où viennent les produits qu'on va consommer. Oui, la ferme pourrait être un peu plus entretenue, mais bon, au moins c'est authentique. Et c'est aussi l'avenir de nos enfants, ce retour à la nature. L'Italie a un territoire très riche, ça peut donner du travail à nos jeunes, et c'est à nous de préserver tout ça.
Avec ce modèle de l'agritourisme, c'est toute l'activité rurale qui est en train de se transformer en Italie à toute vitesse. En 20 ans, le nombre de fermes labellisées agritourisme a plus que doublé sur le territoire italien et génère aujourd'hui près d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Depuis la campagne romaine, Blandine Gonnet, Europe 1.
Voilà, et si vous avez l'occasion de séjourner dans l'une de ces fermes en Italie, foncez, c'est vraiment très très chouette. On poursuit notre vadrouille dans les régions rurales qui luttent pour ne pas disparaître. Seconde illustration, on part à Tokyo maintenant. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Japon, ravi de vous retrouver. Alors le Japon, c'est un pays où l'exode rural, c'est vraiment un sujet important.
Oui, parce que imaginez, 60% de la population japonaise se concentre dans les trois plus grandes villes du pays, Tokyo, Osaka et Nagoya. Beaucoup de ces habitants sont originaires des campagnes. Et donc celles-ci se sont littéralement vidées année après année. Et ce n'est qu'un début selon un démographe. Près de la moitié des 1800 localités rurales que compte le pays sont menacées à terme de disparition du fait de la chute de leur population.
Et dans ce contexte, certains villages réussissent à enrayer leur dépeuplement et même à regagner des habitants. C'est ce que vous avez constaté à Kamikatsu.
Oui, c'est un bourg de montagne situé à 600 km de Tokyo. La moitié de ses 1500 habitants ont plus de 65 ans. Et Kamikatsu a réussi à se faire connaître dans tout le pays grâce à ses seniors et grâce à leur engagement dans une petite activité commerciale très bucolique, la cueillette de fleurs et de feuilles d'arbres.
Alors, la cueillette de fleurs, je comprends, mais de feuilles ?
Au Japon, les restaurants décorent très souvent les plats servis à leurs clients avec des fleurs et des feuilles d'arbres. Eh bien, en majorité, cette déco végétale provient de Kamikatsu, dont la plupart des retraités arrondissent leur fin de mois avec ce petit job d'appoint. C'est le cas de Yukio Nishikage, 81 ans, qui adore ce métier.
Le matin, je me lève à 5h30, je prends mon petit déjeuner, je regarde le feuilleton à la télé, puis je pars faire ma récolte. Grâce à ce petit boulot, tous les jours, je prends l'air, je marche et je profite de la beauté de la nature. En plus, les feuilles, c'est si léger, c'est parfait pour nous les petits vieux. Je ferai bien ce métier jusqu'à mes 100 ans.
Même des jeunes des villes se sont établis dans ce village pour pratiquer cette activité. Daichi Hyakuno, par exemple, 33 ans. Il est originaire d'Osaka et ravi d'avoir refait sa vie à la campagne. Même s'il est un peu inquiet pour l'avenir de ses enfants, âgés de 2 et 3 ans.
Ici, les habitants s'entraident. Moi, par exemple, je suis divorcé et j'élève seul mes deux gosses. Eh bien, quand je rentre tard le soir à cause du travail, ce sont mes voisins, deux petits vieux adorables qui veillent sur eux. C'est super, mais cela dit, est-ce que je vais scolariser mes gamins ici? Il y a peu d'activités parascolaires et le lycée a dû fermer faute d'élèves, donc je ne sais pas trop en fait.
Bernard, on est finalement au cœur du problème hein, avec cette absence de services publics qui ont déserté les régions rurales et qui du coup ne sont pas attractifs. Pourtant, vous êtes allé dans certains villages qui réussissent à sortir de ce cercle vicieux.
Oui, par exemple, en faisant le pari d'investir. C'est le cas de Kamiyama, c'est une petite ville de 5000 habitants. Depuis qu'elle a installé la fibre optique sur tout son territoire, une quinzaine de start-up de Tokyo ou d'Osaka y ont ouvert une succursale. Écoutez Daido Tatsuya, 30 ans, originaire d'Osaka.
Grâce à la fibre, je travaille aussi bien ici qu'en ville. Et avoir réussi à m'intégrer dans ce nouveau cadre, ça va m'ouvrir des portes pour ma carrière. Car l'aptitude à la mobilité professionnelle, pouvoir travailler aussi bien en ville qu'à la campagne, c'est un plus dans un CV.
On touche du doigt là un changement de mentalité qui est tout bénéfice pour les campagnes. Au Japon, les affectations au milieu rural ne sont plus d'office considérées comme une voie de garage, comme un déclassement professionnel. D'ailleurs, comme en France, je crois, certains citadins font désormais le choix de s'installer à la campagne, à la recherche d'une meilleure qualité de vie. C'est le cas par exemple de ce designer que j'ai rencontré à Kamiyama, il s'appelle Kiyoharu Hirose, et c'est après le 11 mars 2011 qu'il a décidé de changer de vie.
À Osaka, je bossais comme un fou. Après la catastrophe de Fukushima, comme beaucoup de Japonais, j'ai compris que la vie était précieuse, mais que celle que je menais n'avait aucun sens. Il fallait que je change mon rapport au travail. Ici, je me sens beaucoup mieux qu'en ville. Je suis plus à l'écoute de moi et plus ouvert aux autres. J'ai réalisé qu'il y avait des choses bien plus importantes dans la vie que l'argent et le travail.
Cet attrait pour le milieu rural n'est pas encore majoritaire dans le monde professionnel japonais. Mais il n'est plus du tout marginal. Donc, l'avenir des campagnes nippones dépend aussi de tous ces urbains qui n'en peuvent plus de se tuer au travail et qui à un moment disent stop et décident de changer de vie.
Ouais. Quel changement de mentalité quand même par rapport au Japon que vous nous racontez d'habitude. C'est assez, assez frappant. Merci beaucoup Bernard pour ce petit tour dans les villages japonais qui se bougent pour ne pas disparaître. C'est inspirant, hein. Comme d'ailleurs l'étaient ces agriturismo dont nous parlait Blandine juste avant en Italie, de la nécessité de prendre de bons bols d'air. À une prochaine fois dans les carnets. Merci Bernard.
Merci à vous Sophie, à très bientôt. Europe 1.
La vadrouille continue dans les carnets et on retourne en Afrique, au Tchad, cette fois pour rencontrer des femmes qui luttent contre ce qui est un fléau, les mariages forcés.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Et maintenant, Sophie Larmoyer, à 13h42, on part au Tchad.
Dans les carnets aujourd'hui, on s'intéresse à un fléau qui touche 2/3 des femmes au Tchad. Il s'agit du mariage forcé. C'est considéré là-bas comme une pratique culturelle, une coutume. Mais des Tchadiennes se mobilisent pour faire changer les choses. Parfois, des hommes les accompagnent dans leur combat. Bonjour Maude Descamps.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes allée au Tchad, Maude, au moment de la visite là-bas d'Emmanuel Macron. C'était autour de Noël. Vous en avez profité pour aller à la rencontre de certaines de ces femmes, parfois mariées très jeunes. Il faut dire que le Tchad est le 3e pays au monde en nombre de mariages forcés. Et là-bas, la moyenne d'âge du mariage forcé, c'est 13 ans.
Oui, c'est ça, entre 13 et 15 ans, parfois 10 ans seulement, notamment dans les zones rurales où l'âge des filles mariées de force peut être très bas. Et elles sont mariées à des hommes qui peuvent avoir 20, 30 ans, mais parfois beaucoup plus, même parfois des vieillards. Au Tchad, c'est 1/3 des femmes qui sont mariées avant l'âge de 15 ans.
Et quand on parle de mariage forcé, on parle évidemment aussi de violences.
Évidemment, alors des violences sexuelles, mais aussi psychologiques et physiques. Et plus la différence d'âge est grande, plus cette violence est présente, hein, disent les ONG.
Elles sont nombreuses sur le terrain, ces organisations ?
Oui, elles sont très présentes. Alors il faut dire qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire pour changer les mentalités. Mais la lutte contre le mariage forcé, ça passe aussi par le développement. Ça, c'est ce que m'a expliqué le président de l'AFD, l'Agence française de développement. Il s'appelle Rémi Riou et je l'ai rencontré à N'Djamena.
Notre travail depuis maintenant une quinzaine d'années, on est en train d'augmenter fortement nos interventions au Tchad. On a fait 150 millions d'euros les deux dernières années, en particulier sur les questions de santé, notamment la qualité de la formation des maîtres et faire évidemment le plus grand cas de la scolarisation des jeunes filles, en particulier le passage du primaire au secondaire, qui est le moment des mariages forcés, qui est le moment où on quitte le système solaire de la première naissance. Donc c'est un moment crucial, évidemment, de garder les jeunes filles, de les faire passer dans l'enseignement secondaire, avec l'idée aussi de couvrir progressivement l'ensemble du pays.
Alors, il faut bien entendre ce que vient de dire le président de l'AFD, hein, le passage du primaire au secondaire. Donc ici, il faut imaginer les gamines qui rentrent en sixième. Ça coïncide là-bas avec la naissance du premier enfant.
Oui, c'est ça. Hein, c'est une petite fille qui quitte le CM2. Mmh. Alors, au-delà des violences sexuelles dont elles sont victimes, il y a aussi souvent des complications liées aux grossesses précoces, des accouchements à risque, un taux élevé aussi de VIH, évidemment. Mmh. Et puis, l'autre conséquence, eh bien, c'est la déscolarisation. Et oui, parce que quand on a déjà un ou deux enfants à 14 ans, eh bien, c'est compliqué hein, d'aller en cours. Le taux d'alphabétisation des femmes ne dépasse pas 22% au Tchad.
Alors, vous avez rencontré, Maud, l'une de ces jeunes filles mariées très jeunes. Elle s'appelle Adjé, et aujourd'hui elle se bat contre les mariages forcés, elle est même présidente d'une assoce.
Oui, elle a 30 ans, on va écouter son témoignage, elle vient du Bata, c'est dans le centre du pays, c'est une région pastorale, on y élève du bétail. Adjé, elle fait partie de la minorité arabophone de cette région, elle a dû arrêter ses études à l'âge de 13 ans pour accoucher de son premier enfant, et elle a tenu à nous répondre en français, donc on y va tranquillement.
Oui, je m'appelle Hadja Nagia Daoud. J'ai marié à 13 ans, mère de 7 enfants, encore de 8.
Vous attendez votre 8e enfant ?
Oui, j'attendais le 8e enfant, c'est fini.
Et votre premier enfant, vous l'avez eu à quel âge ?
14 ans.
Ce sont vos parents qui ont choisi votre mari ?
Le papa, oui. Le papa, il est marié à 13 ans. Papa et maman. J'ai sorti à l'école.
Vous étiez à l'école et vous avez arrêté l'école pour vous marier ?
J'ai arrêté l'école pour me marier. Moi, j'ai demandé l'école. Mon mère et père, non. Ils vont marier les filles 18 ans. C'est bon. Le mariage, 13 ans, c'est pas bon.
Voilà, donc Adjé, enceinte de son 8e enfant à 30 ans. Il existe pourtant désormais une loi au Tchad, Maud, qui interdit le mariage des mineurs.
Oui, depuis 2015, la loi interdit tout mariage avant l'âge de 18 ans. La peine encourue, hein, c'est entre 5 et 10 ans de prison. Une amende de 5 millions de francs CFA, ça fait à peu près 7 600 €. C'est énorme pour un pays comme le Tchad. Et malgré cela, eh bien, un grand nombre d'unions forcées échappent au radar des autorités parce que ce sont des unions religieuses et non civiles, donc elles ne sont pas dans les registres. Difficile de contrôler, surtout dans les zones rurales. Et ces mariages forcés, eh bien, maintiennent la dépendance des femmes tchadiennes à leur mari. Ça, c'est ce que regrette Hélène. Elle est militante tchadienne. C'est une militante tchadienne que j'ai rencontrée qui est membre de la cellule de liaison et d'information des associations féminines.
Quand bien même la loi est prise par le président de la République, ça continue. Ça continue jusqu'en ce moment. La loi est là. Mais il faut aussi punir. Il faut punir. Si on ne punit pas, on n'aura pas de solution. Bon, récemment, il y a un problème qui est en train de se passer par rapport à un mariage qu'on dit soit précoce, soit non précoce. Un député qui a épousé une fille, qu'on dit que c'est moins de 16 ans. Et il a été quand même conduit en justice. Mais les textes au niveau de l'hôpital sont en train de faire et finalement, on dit que les textes biologiques, elle est âgée de 18 ans au plus. Donc, la solution, c'est de punir. Il faut punir, il faut prendre des sanctions, il faut appliquer la loi. C'est une grande lutte parce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'honneur, c'est un problème culturel, c'est une pesanteur. Et quand on parle du genre, l'homme tchadien croit que la femme va arracher sa place, ne comprend pas que la femme vient compléter et vient le soutenir.
Voilà, punir pour que les mentalités évoluent, dit cette militante tchadienne. La solution, Maud, c'est d'abord l'éducation.
L'éducation, bien sûr, l'information aussi. Il y a une initiative qu'il faut saluer, c'est celle d'un groupe d'étudiants, donc un groupe d'hommes de l'université de Mongo, dans le centre du pays. Ils ont créé une application mobile, donc que vous téléchargez sur le téléphone, pour informer sur la législation qui existe en matière de mariage forcé. Et puis, l'autre solution pour aider les femmes, c'est tout simplement de les aider à créer leur business pour qu'elles ne soient plus dépendantes des hommes. Toutes les décisions, on l'a entendu, au Tchad sont souvent entre les mains des hommes. Alors qu'on sait, hein, par exemple, que les femmes ont un meilleur taux de remboursement que les hommes quand elles bénéficient d'un microcrédit. Donc, il n'y a pas de raison de leur refuser. Mais souvent, pour elles, eh bien, il manque un petit coup de pouce. Alors, ce coup de pouce, il va peut-être venir dans les prochains mois, puisqu'Emmanuel Macron a promis aux Tchadiennes la création d'une banque exclusivement réservée aux femmes. On attend évidemment maintenant que ça se concrétise.
On va élargir un tout petit peu le prisme pour finir. Les mariages forcés, Maud, ça n'arrive pas qu'au Tchad et pas que sur le continent africain d'ailleurs.
Et non, c'est une pratique qu'on trouve partout, donc en Asie et en Afrique principalement. Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que le nombre de mariages forcés diminue, c'est l'UNICEF qui le dit, même s'il reste quand même très répandu. 12 millions de jeunes filles, de fillettes parfois, sont mariées de force chaque année. C'est une fille qui est mariée de force toutes les deux secondes, pour vous donner une petite idée. Et il y a plusieurs exemples de pays où c'est en recul. En Inde, par exemple, il y a 10 ans, c'était 47% des filles qui étaient mariées avant leurs 18 ans. Et bien aujourd'hui, ce chiffre est de 27%. Ah, c'est une belle baisse quand même. Bon, ça concerne encore quand même 1,5 million de filles chaque année. Puis l'autre exemple, c'est en Asie du Sud-Est. Le risque pour une fille d'être mariée avant ses 18 ans est passé de 50% à 30% en 10 ans. Donc, il faut être optimiste.
L'évolution va dans le bon sens.
Exactement.
On va dire ça, notamment grâce à l'éducation, l'information et le coup de pouce pour que les femmes puissent lancer leur petit business. On a tout compris. Merci beaucoup, Maud.
Merci, Sophie.
À bientôt dans les carnets.
Europe 1.
La suite du programme, c'est cette question. Quelles sont les bonnes techniques pour éviter les vols, pour ne rien se faire piquer ? Joseph Chovanec a quelques idées originales sur la question. On file en Autistan dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h51, la dernière étape de ces carnets du monde, Sophie Larmoyer. Eh bien, c'est l'Autistan, comme chaque dimanche sur Europe 1.
L'autistan, c'est cette contrée inventée par un garçon autiste Asperger qui nous accompagne dans les carnets depuis des années. Il voyage tout le temps et regarde le monde autrement. C'est Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous qui prenez habituellement le métro à Paris, Joseph, vous connaissez ces annonces passées dans les rames en différentes langues pour mettre en garde les touristes contre les pickpockets. Mais alors, lors de vos voyages, vous ne faites jamais rien voler ?
Mais Sophie, je suis paranoïaque. Oui. Je fais très attention pour ne pas me faire dépouiller. Par la même occasion, je fais très attention aux stratégies des autres personnes. Ouais. J'apprends les trucs et astuces anti-vol des gens à travers le monde.
Ah, vous allez les partager avec nous alors ?
Tout à fait. Et je crois que les plus doués et expérimentés en la matière, ce sont les marchands. J'ai observé leur façon de faire à travers le monde. Par exemple, au Maroc, dans la Médina de Fès. Mm-hmm. La Médina, c'est la vieille ville, cet enchevêtrement de ruelles, des champs, où on vend et achète de tout, depuis les peaux de bêtes jusqu'au parfum. La question qui s'y pose est donc très simple. Comment protéger les biens de l'échoppe lorsque le marchand s'absente? La solution la plus communément pratiquée à Fès est la suivante. Un bout de tissu, généralement de couleur jaune, est tendu dans le sens de la largeur d'un bout à l'autre du stand. Cela signifie qu'il ne faut pas y toucher. Les produits sont en sécurité. Et de façon saisissante, c'est un système presque identique à la couleur du tissu prêt qui est en vigueur ici, au Sultanat d'Oman, à l'autre bout du monde arabe, sur les marchés traditionnels. Ce serait intéressant de faire l'histoire de cet antivol-là.
Ouais, pas sûr que ça marche partout, votre truc, hein.
Oui, Sophie, mais ça me fait penser aux explications d'une amie martiniquaise. Sa grand-mère protégeait la maison familiale à la Martinique en temps longtemps, comme on dit là-bas, lorsqu'elle s'absentait pour quelques jours, et bien tout simplement en ouvrant tout, porte et fenêtre. Comme ça, si un visiteur avait besoin d'un abri pour la nuit, il pouvait dormir au sec, aucun risque de cambriolage. À la Martinique ou ailleurs, après tout, dans bien des régions du monde, aujourd'hui encore, on laisse la porte de sa maison ouverte.
J'adore.
Parfois, on n'a même pas de porte, d'ailleurs.
J'adore votre philosophie de vie. Bon, mais quand on a un trésor quand même, Joseph, supposé ou réel, chez soi, c'est un peu gonflé comme technique de laisser tout ouvert.
Oui, le plus classique quand on a un vrai trésor, c'est de l'enterrer.
Oui.
L'ennui, c'est que si le trésor est mal enfoui, quelqu'un d'autre va le prendre. Et s'il est trop bien enfoui, on oubliera son emplacement, il sera perdu à jamais. L'an dernier, je visitais la commune de Bellombre, c'est aux Seychelles. Et à un endroit donné de la plage, il y avait un groupe de gens en train de s'adonner à des activités bizarres. Renseignement pris, c'était l'endroit où le légendaire pirate Olivier Levasseur voleur aurait enterré son fabuleux trésor. Et on le cherche encore jusqu'à ce jour. Bref, l'enterrement des trésors, ce n'est pas une méthode optimale. Ce n'est qu'avant-hier, aux Maldives, que j'ai appris la solution ultime pour protéger les grandes richesses. C'est le djinn, hein, le djinn, ce petit génie ou esprit magique à peu près. Hein. D'après la légende, mais beaucoup de gens aux Maldives y croient dur comme fer, les riches arabes, donc des étrangers aux Maldives, auraient enterré sur les plages coralliennes leurs trésors. Sauf que contrairement aux pirates des Seychelles précités, ils ont confié la garde de cette trésor à un djinn. Ces djinns sont fondamentalement honnêtes. Jamais ils ne donneraient le trésor à quelqu'un d'autre que son vrai propriétaire ou son héritier. Mieux, quand on est sur le point de découvrir un tel trésor qui ne nous appartient pas, le djinn le déplace ou le fait disparaître, ainsi que le curieux explorateur. Et mon jeune interlocuteur aux Maldives m'assurait avoir filmé un tel épisode où un curieux était disparu, était volatilisé par le djinn.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Je ne sais pas, Sophie, je n'ai pas vu le film, mais en Occident, il y a bien des gens qui confient leurs trésors à des banquiers.
C'est vrai.
De toute façon, je crois que les véritables trésors sont ceux que l'on partage. Ces petites et amusantes leçons de sagesse du monde qui nous montrent combien nos cupidités du quotidien, petites et grandes, sont dérisoires face à l'essentiel.
Oui, j'en conclue que vous ne vous êtes jamais rien fait piquer en voyage. Merci, Joseph.
Si, si. Ah.
Bon, ce sera l'objet d'une autre chronique. À dimanche prochain, Joseph.
À très bientôt.
Europe 1.
Et c'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vadrouille. Je vous recommande bien sûr le podcast de l'émission, à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Sophie Mallier a réalisé ces carnets, Florence Gimalac m'a aidé à les préparer et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.
Merci Sophie Larmoyer. Et le podcast, c'est bien sûr sur Europe 1.fr. À dimanche, donc de 13h à 14h sur Europe 1.